Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Voici les experts, puisque ça vous concerne. Bonjour à Christine Béroux,
bonjour.
Charles Decan.
Bonjour.
Et Maître Roland Pérez.
Bonjour à tous.
Maître, la Cour de cassation nous réserve chaque jour son lot de surprises. Ce matin, c'est une de taille que vous allez nous révéler, puisqu'il est question d'un propriétaire qui aurait donc réussi à obtenir en justice la résiliation du bail de son voisin. Comment ça?
Ça vous interpelle, hein?
Bah oui,
il y a, parce que moi j'ai très envie de le faire aussi pour mon voisin du dessous. Donc
C'est un peu pour ça que j'ai fait cette chronique ce matin. Il y a à peine quelques semaines, Pierre, la Cour de cassation a rendu une décision très inattendue qui permet en justice effectivement à un propriétaire victime du comportement indélicat de son voisin d'obtenir son expulsion après résiliation de son contrat de bail. Nous sommes dans une copropriété urbaine. Le rez-de-chaussée de l'immeuble est occupé par une entreprise de location en réparation de cyclomoteurs. Les voisins se plaignent de bruit engendré par cette activité. Le fait également que les parties communes étaient très souvent encombrées par les engins du commerçant, les allées et venues des clients qui passaient parfois par l'immeuble pour récupérer les cyclomoteurs, et ce à longueur de journée. L'un des propriétaires particulièrement gênés avait demandé au propriétaire du local d'agir à l'encontre de son locataire pour que celui-ci respecte la réglementation de l'immeuble, et notamment sa sécurité et sa quiétude. Mais tout cela, vous l'aurez compris, en vain, si bien que le voisin victime va saisir la justice et demander à ce que le contrat de bail qui lie le locataire à l'origine des nuisances à son bailleur soit résilié, ce qu'il va, contre toute attente, obtenir, alors qu'il n'est pas parti au contrat de location dont il a demandé pourtant la rupture. Le propriétaire du local et son locataire restent abasourdis d'un tel jugement.
C'est ce qu'on appelle une action oblique.
Exactement, une telle situation a pu aboutir par cette action oblique qui existe effectivement dans le code civil. Quand une personne n'exerce pas un droit qui est le sien et que cette abstention cause un préjudice à une autre personne, cette dernière peut se substituer à elle.
Merci Roland Pérez, on le saura. Donc vous revenez, mon cher Charles, sur l'improbable combat qui a failli se jouer entre TF1 et France 2 le dimanche 13 juin prochain en prime time.
Oui, vous connaissiez Batman contre Superman, King Kong contre Godzilla ou encore le biceps d'Olivier Véran contre la seringue de vaccin anti-Covid, ça c'est le film préféré de Christine. Et bien le 13 juin, on a failli vivre, pire encore, Bridget Jones contre Bridget Jones.
Ils ont osé.
Et la 1 et la 2 ont annoncé ce mardi leur grille de programme pour la période du 12 au 18 juin prochain. Et surprise, elles ont toutes les deux parié sur la célibatante britannique incarnée par Renée Zellweger pour leur film du dimanche soir. Alors dans le détail, TF1 a choisi Bridget Jones Baby, le troisième volet de la saga qui était sorti en 2016, et France 2, elle comptait proposer les premiers et deuxième films de la franchise qui datent de 2001 et 2005.
Le Baby, c'est avec le docteur de Grey's Anatomy, non?
C'est ça,
oui.
Absolument. Ah, oui.
Mais c'est un hasard complet, c'est ça?
Alors oui et non. Normalement, les chaînes découvrent chaque mardi ce que leurs rivales vont proposer dans trois semaines. Elles envoient toutes, chacune de leur côté, leur grille au syndicat de la presse magazine. Ces trois semaines d'avance, elles permettent aux magazines télé de tout mettre en page, tout imprimer et de proposer les programmes télé à leurs lecteurs avec un peu d'avance. Et c'est comme ça que les deux chaînes ont pu programmer la même saga le même soir. Mais avant l'annonce de ce mardi, TF1 et France 2 savaient déjà ce qu'M6 diffuserait le 13 juin, puisqu'il s'agissait d'un match de foot de l'Euro 2020, Pays-Bas-Ukraine. Elles sont donc parties du principe que le public masculin serait branché sur M6, quoi qu'il arrive, et elles ont opté pour une contre-programmation à destination d'un public majoritairement féminin.
Non mais attendez, une fois que les chaînes ont annoncé la programmation, elles n'ont pas le droit de faire marche arrière?
Eh bien normalement non, mais il existe quelques rares exceptions. Une chaîne peut par exemple modifier sa grille en raison de l'actualité. France 2, elle a invoqué l'intérêt du téléspectateur dès mercredi pour justifier sa marche arrière. Le dimanche 13 juin, pas de Bridget Jones, du coup, ce sera la comédie française La Cage Dorée. Reste à voir désormais si elle fera le poids face à Bridget Jones.
Bon, bah en tout cas, ce qui ne nuit pas à l'auditeur d'Europe 1, c'est la chronique de Christine.
Et si vous voulez voir Bridget Jones 4, il suffit de regarder mon Instagram. Voilà. Alors, comme vous le savez, on est fin mai et il pleut. Déduction, c'est Roland Garros. Notre deuxième Roland préféré, juste après Roland Pérez.
Merci.
Voici ce matin 10 bonnes raisons de suivre ce mythique tournoi de tennis. Pour les looks des joueurs, qu'on ne voit que là-bas, voilà, les hommes portent des bandeaux en mousse autour de la tête. Quand ils sont chauds, ça les fait ressembler à des Pokémon Ball. Parce que c'est un tournoi créé pendant les années folles. Il sent bon le champagne et les romans de Francis Scott Fitzgerald, plus classe que la Coupe UEFA, créée en 71 et qui sent bon la moquette orange et les concerts en plein air de Didier Barbelivien. Dans le public, il y a beaucoup de milliardaires, de chefs d'entreprise et d'hommes politiques. Moi, je rêve que Élise Lucet débarque en disant « Bonjour Élise Lucet, cache investigation » pour voir la moitié des gradins se vider en deux secondes. C'est l'occasion d'apprendre des choses. Par exemple, que le mot tennis vient de tenner, parce qu'avant, c'est ce que disaient les joueurs en s'envoyant la balle. Voilà, ça a bien changé parce que maintenant, ils disent « La dernière fois qu'un tennisman français a gagné, c'était en 83. Et après, il a composé une chanson, Saga Africa, qui a cartonné. Du coup, on ne sait pas si depuis, les joueurs étrangers nous battent par amour de la compétition ou par amour de la bonne musique. La dernière fois qu'une tenniswoman française a gagné, c'était en 2000, Marie Pierce. Et il faut savoir que le tennis est un des rares sport où les femmes sont aussi bien payées que les hommes. Le comble quand on est une femme de devoir faire du tennis pour ne pas être victime de raquettes. Vous l'avez, Pierre ?
Ouais,
parce qu'il y a des moments... Il y a des moments d'anthologie, comme en 2002, quand Serena Williams a affronté sa propre sœur Venus Williams devant les caméras du monde entier. Un grand moment de sport et peut-être une solution pour les princes Harry et William.
Il faut le tennis, d'ailleurs.
Voilà. Raison 8, parce que Nelson Montfort. Voilà. Parce que beaucoup de jeunes Français, pour que beaucoup de jeunes Français, Roland-Garros, ce sont les deux mots magiques qui font oublier les deux mots de l'enfer. Parcoursup. Et enfin, parce qu'on veut connaître le résultat final, le suspense est insoutenable. On a tous hâte de connaître le nom de celui qui va se faire battre par Raphaël Nadal. Voilà, je rappelle que la première fois que ce dernier a remporté la finale de Roland-Garros, notre président, c'était Jacques Chirac. Voilà. Et quand Raphaël Nadal aura gagné cette année pour la 14e fois, on sera tous contents, car enfin, on pourra dire qu'on a retrouvé le monde d'avant.
Ouais. Merci Christine. Merci les amis. À demain.